Alors effectivement, ce matin, on va continuer, poursuivre cette série de quatre messages sur The Chosen. Donc c'est bien une série bien basée sur les évangiles, sur la vie de Jésus, appuyée par quelques extraits de films. Et puis comme Jean-Jacques l'a très bien dit la dernière fois, vous n'avez pas vu Jésus en regardant cette affiche, c'est bien un acteur de cinéma, hein. Mais j'espère que vous puissiez goûter à qui est Jésus et repartir là encouragé au travers de cette série. Alors, on commence avec un petit extrait avant d'entrer directement dans le thème de ce matin. Merci à PH pour la technique. Tu peux y aller, je pense, ça devrait jouer. Ouais, presque. Plus que le son. Raphaël, tu nous dis quand c'est bon ?
Lui demandant ainsi par ce geste de le suivre.
Et sur le champ, Élisée égorgea tous ses bœufs et brûla sa charrue et laissa tout derrière lui.
C'est ça. Le maître sur la rive. C'est le Messie. Je sais que ça paraît impossible, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Il a fait apparaître assez de poissons pour remplir deux barques. Et les mots qu'il a prononcés, celui que Jean a dit à André qu'il était l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'était lui. Et après, il m'a demandé de le suivre. Moi, André, Jacques et Jean, il veut qu'on le suive et qu'on écoute son enseignement. Il a dit que c'est plus des poissons que j'attraperai, mais des hommes. Je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis sûr de ce que j'ai vu. C'est celui qu'on a attendu toute notre vie et... Je veux arrêter de pêcher. Je veux plus aller en mer. Je veux le suivre. Je sais, Eden, je sais que ça n'a aucun sens et je savais que ça te ferait de la peine. Mais tout ce que je veux dire, c'est que...
Je ne suis pas triste. Oh, mais pourquoi tu voudrais que je sois triste? Approche. Viens, je te dis. Approche. Je retrouve l'homme que j'ai épousé.
Alors, tu me crois?
T'aurais pas pu inventer une histoire pareille. C'est normal qu'il t'ait choisi.
J'ignore pourquoi. J'ai essayé de lui dire, je ne suis qu'un simple pêcheur.
Tout le monde l'est, Simon.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ignore encore ce que je vais pouvoir lui apporter.
Je me fais aucun souci pour ça.
Alors, pourquoi tu pleures?
Parce qu'enfin quelqu'un voit ce que j'ai toujours vu en toi.
Enfin quelqu'un voit ce que j'ai toujours vu en toi. Voilà cette belle phrase, bien sûr, c'est un peu romancé, vous n'avez pas ça dans l'évangile exactement, mais ça fait tout à fait suite à ce qu'on a entendu la dernière fois. On a été touché par cet appel de Jésus à le suivre et on voit ici encore Simon-Pierre sous l'émotion de cette rencontre avec Jésus extraordinaire, de cette pêche miraculeuse qui l'a tellement bouleversé. Et puis il dit, ben oui, c'est lui, puis je veux le suivre. Hein. Puis il y avait une appréhension de suivre ce Jésus, une appréhension d'annoncer là à sa femme, de dire, ben je vais arrêter de pêcher, quoi. Donc on n'aura pas de ressources, comment on va faire, etc. Mais même s'il a essayé de dire à Jésus qu'il n'était pas le gars qu'il fallait, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis sa femme appuie ça d'une manière très jolie. Mais comme Pierre, comme Marie-Madeleine, comme Matthieu, on a vraiment saisi cet appel aussi la semaine dernière. Il nous a choisis. Quel que soit notre passé, quel que soit même notre présent, que nous nous sentions parfois rejetés, disqualifiés, Jésus t'a choisi. Il a choisi que tu le suives. Il t'a envoyé cette invitation, suis-moi. Alors maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette invitation? Qu'est-ce qu'on va faire? Suivre Jésus. Sympa, mais Pierre, il n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Il y a quelque chose qui s'est passé dans leur cœur, oui, mais ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi de leur journée? Avant, ils savaient assez bien, même des fois les jours, les nuits, sur un bateau. Mais là, qu'est-ce qu'il va faire? Et il dit même, il m'a dit que je ne pêcherais plus des poissons, je serais pêcheur d'hommes. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Mais il y a quelque chose. Quelle suite après avoir répondu à son invitation? Moi, je me souviens que c'était aussi une de mes préoccupations lorsque j'ai vraiment eu une rencontre forte avec Jésus, lorsque j'ai reçu ce baptême de l'Esprit-Saint. J'avais juste 12 ans, et puis j'ai pu vraiment comme entendre ce, suis-moi. Je veux faire quelque chose avec toi. C'était tellement plein d'émotions. Mais pendant plusieurs années après, j'étais là, ok, mais tu veux faire quoi avec moi? C'est quoi la suite? J'ai bien envie, il y avait comme une excitation. J'ai bien envie, mais c'est quoi? Chaque fois que je demandais la prière, je disais, vous pouvez prier pour ça parce que je crois que vraiment il veut que je le suive, mais je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. J'étais un peu comme ça. Et peut-être que vous êtes encore comme ça, plusieurs d'entre vous ici. Seigneur, tu veux que je fasse quoi? Alors nous sommes choisis pour être disciples, mais ça signifie quoi? Savez-vous ce matin pourquoi il vous a choisi? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez déjà répondu à une demande de volontaire sans savoir pourquoi? Qu'est-ce que vous deviez faire? Vous avez déjà répondu, c'est pas facile à faire, hein? Répondre à une demande, quelqu'un cherche un volontaire, vous ne savez pas pourquoi. Moi j'aime bien raconter cette histoire parce que ça m'est arrivé une fois à l'armée. Le sergent-major débarque dans le dortoir, puis il dit « Je cherche un volontaire !» Puis là, grand silence dans le dortoir, on est en train de se préparer pour une marche de 35 km. Alors autant dire que les gars, ils étaient concentrés, ils étaient en train de faire leur paquetage, serrer leurs chaussures, réfléchir à comment ils avaient, est-ce qu'ils avaient bien massé leurs pieds avant de mettre leurs chaussures. Puis moi, j'étais un peu perdu dans tout ça, puis je sais pas, un cœur de sacrifice. Bon chrétien, je dis « moi ». Puis il me dit à peu près sur le même temps, avec un petit sourire en coin, « Osman, vous venez avec moi, vous faites pas la marche !» Tous les copains, « Oh, c'est dégueulasse !» Imaginez. Alors parfois, le courage de répondre à un appel sans savoir pourquoi, eh ben, ça peut être une bénédiction. Incroyable. Ah là là, je me suis juste occupé du ravitaillement, j'ai fait quelques trajets, je les ai regardés marcher. Les mecs. Bon, tout s'explique. Enfin, voilà. Mais des fois, d'une réponse comme ça, sans savoir qu'est-ce qu'on va faire, ben, ça peut donner l'occasion à Dieu de nous bénir, de faire ce choix-là, d'entrer dans son œuvre. Simon-Pierre ne savait pas pourquoi il avait été choisi, mais quelque chose s'était passé. Et après le miracle des noces de Cana, on va regarder un deuxième extrait, c'est très court cet extrait, mais il a commencé à le suivre, puis il y a eu ce miracle des noces de Cana, donc de la transformation de l'eau en vin. Puis là, quelque chose commence à prendre place, il commence à comprendre un petit peu mieux. On regarde cette scène très courte.
Le poisson, le vin et après, c'est quoi la suite?
Tu as des suggestions?
Tout le reste. Tout ce qui nous sera possible de faire. Je t'accompagnerai au bout du monde.
Je l'espère, Simon. Voilà, donc là, il commence à dire, il y a eu ça, il y a eu le poisson, il y a eu le vin, puis c'est quoi la suite, quoi? Hein, je t'accompagne, là, je te suis, il y a comme quelque chose qui commence à prendre place. Et puis ça devrait être comme ça dans notre vie chrétienne. On commence à suivre Jésus, mais on devrait être enthousiasmé. Hein. Ça ne devrait pas dire, oh là là, pff, c'est un peu longuet, quoi. Puis il faut attendre encore qu'il revienne. Hein, franchement, non, il devrait avoir un enthousiasme, dire, c'est quoi la suite, quoi? J'ai envie de plus, Pierre a envie de plus. Donc, est-ce que vous avez aussi envie de plus ce matin? Alors, j'aimerais vous dire que ce matin, Jésus vous a choisi pour être des témoins de la puissance de Dieu. C'est ça qui se passait sur ce chemin avec Jésus. Il y avait des miracles, des choses se passaient. Et lorsqu'on marche avec Jésus, on est raisonnablement en droit de penser qu'il va y avoir des miracles. Pourquoi? Parce qu'il est là pour révéler le Père. Il est là pour montrer la compassion du Père, l'amour du Père. Et son énoncé de mission est très très clair. Vous vous souvenez, en Luc 4, il y a aussi une scène extraordinaire. Hein. Ça, c'était pas prévu, mais c'est pas grave. Et en Luc 4, à un moment donné, Jésus il est dans la synagogue, puis il reçoit le rouleau du livre d'Ésaïe, hein, et puis il va lire ses paroles, qui est comme son énoncé de mission. Je vais vous le lire maintenant, en Luc 4, 18-19, où il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est son aisance et de mission. Puis il va lire ça, puis il va s'asseoir, puis il va dire cette parole est accomplie. Puis il va attendre un moment, puis il y a tout le monde qui est figé. Je dis, mais il fait quoi? Comment il ose dire ça? Mais ça, la mission de Jésus, elle est très claire. Et quand on marche à sa suite, ben, on devrait s'attendre à voir ces choses. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ah bon, c'est bien. Oui, ça commence un peu à changer notre programme, les amis. Hein? Donc, on est choisi pour, et on est appelé à le suivre et à vivre avec lui cette réalité du miraculeux. Pierre a vu ses filets remplis de poissons, il voit l'eau transformée en vin, et c'est quoi la suite? Alors, ils vont reprendre la route et on va regarder maintenant à une autre situation, un autre miracle que l'on trouve en Luc chapitre 5, les versets 12 à 15. Je lis le texte. Voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux. » « Sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Puis il lui ordonna de n'en parler à personne. « Mais, dit-il, va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit afin que cela leur serve de témoignage. » Sa renommée, donc la renommée de Jésus, se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. On regarde la scène.
Pitié. Pitié. Pitié, ne te détourne pas de moi.
Non, rassure-toi.
Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seulement si tu le veux, je remets à toi. Ma sœur était servante au mariage. Elle m'a dit ce que tu es capable de faire. Je sais que tu peux me guérir si c'est ta volonté.
C'est ma volonté. Sois purifié. Je veux seulement que tu fasses une chose.
Je vais dire quoi aux gens?
Va. Va te montrer au prêtre. Laisse-le vérifier et voir que tu as été purifié. Présente au temple l'offrande que Moïse a prescrite. Et poursuis ton chemin. Qui a une tunique pour lui? Non, une seule, ça suffira. Ça suffira.
Merci.
La verte va très bien en plus. Elle n'est pas trop abîmée.
Merci.
Voilà. Ça aide, hein, de voir un petit peu comment ça se passait. Ça nous donne une idée du contexte, c'est extraordinaire. Alors, être témoin de la puissance de Dieu nous transforme intérieurement d'abord. En fait, alors qu'ils commencent à suivre Jésus, que ces miracles prennent place, quelque chose est en train de se passer dans le cœur des disciples. Non seulement ils ont vu la puissance de Dieu tomber en eux, parce qu'il y a un changement qui prend place en eux, hein, ils sont en route, leur vie est en train vraiment de changer, ils vivent quelque chose intérieurement, mais puis, par ce miracle, non seulement un homme va retrouver la vie, un homme va être de nouveau, va retrouver sa dignité, mais ce miracle va contribuer à la transformation des cœurs, du cœur des disciples. Et puis ça, c'est hyper important. Parce qu'il y a ce chemin avec Jésus où il y a des choses qui se prennent place, mais il y a une transformation qui prend place à l'intérieur de nous qui le suivons. On ne peut pas rester les mêmes face à ce genre de miracle. Là, ils ont vu un homme, ils ont vu Jésus s'approcher d'un homme impur. On n'a juste pas vu le tout début, mais quand ce lépreux arrive, ils ont peur. Ils sortent même l'épée, vous avez vu, il a plutôt rengainé après. Hein. Mais au début, ils veulent sortir l'épée. Ils ont peur de ce lépreux. Il faut fuir. Ils entendent que la volonté de Dieu, la volonté de Jésus à ce moment-là, c'est de le rendre pur. Ils l'entendent. Ils voient Jésus le toucher. Ils sont témoins d'une guérison surnaturelle. Quelque chose se passe à l'intérieur d'eux. Ils comprennent que c'est un maître qui est tellement plein de compassion. Ils commencent à comprendre la volonté du Seigneur. Une volonté qui ne se conforme pas à la loi. Jésus ne s'arrête pas à ce qui est déclaré impur, mais il rend pur. J'ai envie de dire, il n'a pas peur de se salir les mains, Jésus. Vraiment pas. Il ne reste pas dans une bulle religieuse pour éviter d'être contaminé. Non, au contraire, il va toucher cet homme avec la volonté de le guérir. Alors le cœur des disciples est touché au même titre que le nôtre ce matin. Nous avons besoin de nous laisser transformer de l'intérieur. Puis c'est ça qui commence à prendre place. Qu'est-ce que je vais faire en suivant Jésus? Ben, tu vas voir des miracles, mais ça doit transformer ton être intérieur. Ça doit transformer ta mentalité. N'avons-nous pas, nous aussi, parfois peur de celui qui est différent? Est-ce qu'on ne préfère pas rester dans notre bulle de bon chrétien? Ça fait peut-être écho à la question de Denis. Ben oui, des fois, on n'aime pas être dérangé. Mais c'est clair que lorsqu'on va là où il y a vraiment des besoins, ben on risque de rentrer en puant la fumée. C'est probable. On n'aime pas hein, avoir les habits qui sentent la fumée, ceux qui ne fument pas. Ça se pourrait bien que ce soit comme ça. Tu risques d'avoir été confronté à des mentalités différentes que la tienne. Tu risques d'avoir été dans un lieu ou dans un groupe de personnes avec lesquelles tu n'étais pas vraiment à l'aise. Ce n'était pas à toi qu'on posait les questions, tu n'étais pas le centre de l'attention, tu te sentais peut-être un peu les fesses entre deux chaises. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faut dire. Si tu vas là où il y a des besoins, tu risques d'entendre des gros mots, des mots grossiers, au moins trois dans une phrase. Ça se pourrait bien. Mais si tu veux être aseptisé et jamais entendre de gros mots, ben, reste dans ta bulle de bon chrétien, c'est sûr. C'est dans les ténèbres que la lumière brille. C'est dans les ténèbres que la lumière brille. Alors lorsque nous sommes témoins de l'œuvre de Christ dans la vie de personnes, dans la vie de personnes qui ont des vies tellement folles, tellement cabossées, compliquées, je crois que ça devrait contribuer à ouvrir notre cœur. Si Jésus va là, si Jésus fait ça, si Jésus s'intéresse à ces personnes-là, est-ce que moi aussi je ne devrais pas faire de même? Est-ce que moi aussi je ne devrais pas m'ouvrir un peu? Donc ça vient toucher notre être intérieur. Au travers de cette guérison, j'aimerais aussi intégrer juste un principe tout simple. Les guérisons que Jésus opère, elles touchent toujours l'intérieur et l'extérieur. Il y a une réalité physique et il y a une réalité spirituelle. Ou une vérité physique et une vérité spirituelle. Et là, il y a cette question de l'être intérieur pour nous aujourd'hui. S'il est capable de guérir une impureté physique, il est capable de guérir notre impureté intérieure. Et si ce matin, quelqu'un qu'ils sont impurs, encore qu'ils sont indignes. Je ne sais même pas pourquoi je suis là. J'aimerais te dire que ce matin même, tu peux faire comme cet homme et crier à Jésus. Tu peux crier à Jésus. Il veut te rendre pur. C'est sa volonté. Et tout à l'heure, tu pourras t'approcher, on pourra prier pour toi avec beaucoup de joie, avec aucun jugement, aucune condamnation. C'est la volonté de te rendre pur, intérieurement comme extérieurement. Deuxième chose, être témoin de la puissance de Dieu nous enseigne, elle nous instruit. On va le voir comment, mais en regardant ce que Jésus fait, on apprend quelque chose. J'ai mis cette photo d'un enfant parce qu'on sait qu'un enfant, il apprend en regardant ses parents. Ils apprennent beaucoup par mimétisme. On va lire donc un deuxième récit, en Luc, toujours en Luc 5, c'est la suite, versets 17 à 26. Une guérison connue, une guérison que j'aime beaucoup, un texte extraordinaire. Un jour, Jésus enseignait, des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Extraordinaire. Autrement dit, elle pourrait se manifester autrement, la puissance de Dieu, hein, mais elle se manifeste par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Ils cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est-ce qui profère de tels blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ? Lequel est le plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ?» Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. On regarde.
Non, je crois pas.
Il y aura assez de place pour lui ?
Oui. Oui.
Tu te rends compte de la chance qu'on a ?
Oui.
Regardez.
Encore ? Toi là, tu enseignes sous l'autorité de qui ? Réponds-moi.
Aide-le, Rabbi. Je sais que tu en as le pouvoir.
Hé, hey, toi, je te parle. Sous l'autorité de qui ? Sûrement pas celle des rabbis de Nazareth. Tu as étudié où ?
Votre foi est magnifique. Mon enfant, prends courage. Tes péchés sont pardonnés. Qui est cet homme qui profère des blasphèmes ? Qui peut pardonner les péchés à part Dieu ? C'est ce que vous vous dites. Mais je vous le demande, c'est quoi le plus facile à dire ? Tes péchés sont pardonnés ? Ou bien, lève-toi et marche ? Tout est facile à dire, finalement. Mais je vais vous montrer, pour que vous sachiez tous, que le Fils de l'homme sur terre a toute autorité pour pardonner les péchés. Je te l'ordonne, mon enfant. Lève-toi. Emporte ton brancard. Et retourne dans ta maison.
Thank you.
Fais doucement.
Alléluia. C'est le seul film où vous pouvez dire Alléluia, merci Seigneur, d'accord? Profitez. Alors, on est ici chez Jacques à Capernaum, et puis on commence donc à parler de plus en plus de Jésus, il y a de plus en plus de monde, hein, il y a du c'est incroyable, les gens savent qu'il est là, et tout le monde accourt. Et puis on voit donc, vous avez juste, voilà, on sait, la Bible nous le dit, quatre hommes, hein, dans l'évangile de Marc, quatre hommes ont porté ce paralytique à Jésus. Il y aurait tellement à dire sur ce texte, entre autres le fait de penser aux autres et non à soi, hein, parce que souvent quand on voit Jésus, on se dirait ben, c'est pour nous d'abord, mais là ils ont été chercher un homme qui ne pouvait pas venir à Jésus. Il y a tout un enseignement, même sur le travail en équipe, hein, parce qu'ils n'auraient pas pu le porter, un gars tout seul n'aurait rien pu faire, donc il fallait se concerter, il fallait choisir, il fallait voir le besoin, l'amener à Jésus, extraordinaire. Ils ne sont pas laissés bloquer par la foule. Hein. Souvent, nous, on lâche parce que finalement, y a trop d'obstacles pour aller à Jésus. Quoi. Alors, j'essaierai demain. Hein, mais non, ils n'ont pas dit ça. Ils se sont battus, ils ont trouvé une solution, ils ont eu de la créativité pour ouvrir ce toit et l'amener devant Jésus. Et puis, Jésus dit qu'il a vu leur foi, hein, la foi de ses amis-là. Et ils ont vu leur foi. Donc, ils avaient vraiment une foi déterminée. C'est magnifique. Mais si nous nous plaçons en témoins de la scène, si nous nous plaçons en disciples, nous sommes en train de suivre Jésus, nous voyons ça se passer, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que Jésus a tout pouvoir. Comme il a eu le pouvoir de calmer la tempête, hein, sur les éléments, vous êtes dans cette barque, vous vous souvenez, ben là, il a le pouvoir de pardonner les péchés, donc de réconcilier les hommes avec le Père. C'est extraordinaire. Ils comprennent aussi cette relation entre salut, guérison et foi. Ils voient que le salut est primordial pour Jésus. Donc il y a comme un enseignement dans ce miracle-là sur la guérison en elle-même. Il n'a pas d'abord guéri le paralytique. Il lui a d'abord dit « Tes péchés te sont pardonnés. Le salut est primordial. » C'est plus important d'être réconcilié avec Dieu que d'être guéri sur la terre. Vous êtes d'accord avec ça? C'est hyper important. Mais la foi est honorée. Il a vu la foi. Il a vu même la foi de ceux qui ont amené ces personnes à Jésus. Ce n'est pas quelque chose que Jésus s'en fiche, quoi. Non, il regarde, il voit. Il dit, waouh, quelle foi. Et puis, cette guérison physique, elle est comme l'attestation visible de son autorité, de sa toute-puissance, mais bien sûr aussi de son amour, de sa compassion pour tous les hommes. Hein. Il ne lui a pas demandé son identité, il ne lui a pas demandé d'où il venait, son cursus. Non, il a manifesté la compassion et l'amour. Il a guéri cet homme. Et puis, il y a cette confrontation omniprésente avec la loi, avec ces hommes de loi qui sont là. De quelle autorité? Ça, c'est extraordinaire. Et là aussi, les disciples vont apprendre beaucoup par rapport à ça. Parce qu'ils vont y faire face aussi. Et même si ce n'est pas toujours des autorités physiques, c'est toujours cette confrontation avec justement notre manière de penser, nos lunettes avec lesquelles on lit la parole, avec lesquelles on imagine que les choses devraient se passer, avec notre arrière-plan religieux. Et les disciples avaient grandi avec une connaissance de la Torah. Alors, ils se retrouvent parfois, eux-mêmes, confrontés à cette loi qu'ils connaissent. Et puis, ils voient que dans la pratique, ce n'est pas exactement ça qui se passe. Ce n'est pas comme ils avaient lu. Vous connaissez de cette différence entre la théorie et la pratique. Hein, y a quelque chose à apprendre. Prenons l'exemple de la maison de Corneille. Hein, d'un coup, ben, Saint-Esprit les appelle Pierre dans la maison de Corneille, un impur. Un païen. Et puis là, Pierre n'est pas du tout convaincu. Il a obéi au Saint-Esprit pour aller chez lui, il n'aurait même pas dû y aller. C'est un païen. Même pas entré chez lui. Il y va un peu par obéissance, mais on voit même dans son discours qu'il insiste sur le fait que Jésus, le Messie, c'est pour les Juifs. C'est pas pour les non-Juifs. On peut même relever ça dans le texte. Si vous vraiment vous lisez le texte, vous allez voir, il y a des petites notes un peu racistes presque. Franchement, c'est pas pour les non-Juifs, c'est pour nous d'abord. Je sais pas pourquoi je suis là, franchement. Je comprends pas, mais il fait son discours. Puis d'un coup, le Saint-Esprit tombe sur ces gens. Ils ne sont pas baptisés d'eau. Ils ne sont pas juifs. Ils sont des païens. Vous comprenez la remise en question? Cette confrontation entre la loi et ce que le Saint-Esprit veut faire. C'est tellement différent. C'est tellement autre chose. Moi, j'aime vraiment le dire, le Saint-Esprit n'est pas religieux. Vraiment pas. Alors, être témoin de la puissance de Dieu nous enseigne beaucoup. Et puis ici, ça nous rappelle que Jésus est tout-puissant. Donc, c'est presque un sermon doctrinal qu'ils sont en train de voir. D'accord ? Ils apprennent qui est Jésus. D'accord ? Christologie. Qui est Jésus ? Il a toute autorité. Il est Dieu. Le salut se trouve en lui. De plus, comme ces quatre hommes qui ont porté le paralytique, nous sommes nous aussi amenés à amener à Jésus celui qui ne peut pas y aller. Parce que c'est lui qui guérit. Ils comprennent ça. Il guérit. Alors ma question ce matin, voyez-vous assez régulièrement la puissance de Dieu pour être enseigné? Est-ce que dans votre quotidien, il y a des choses que vous avez vécues et que vous avez appris sur Dieu? Quelles sont les dernières interventions de Dieu dans un domaine ou l'autre de votre vie qui vous ont montré qui est Dieu? Qui vous ont peut-être un peu dérangé, un peu étonné. Mais suivre Jésus, c'est ça. On avance avec Jésus, il y a des miracles qui se produisent, des choses. Bien sûr, pour dire c'est l'extraordinaire, là. C'est Jésus, c'est extraordinaire. Mais dans notre quotidien, il y a des miracles qui sont extraordinaires. Il y en a. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce que vous en voulez plus? Amen. Alléluia. Mais est-ce qu'il y en a assez pour que j'apprenne quelque chose? Est-ce que lorsque quelque chose se passe qui n'est pas normal, est-ce que je vais au suivant ou j'apprends quelque chose? Je me laisse interroger. Troisième point et dernier point, être témoin de la puissance de Dieu nous rend acteur. On va dire, bon, moi je fais du silicone, de la colle. Pourquoi cette image? Mais j'aime bien cette image parce qu'en fait, à quelque part, nous, on n'est pas celui qui met le silicone, là. On est plutôt le tube. OK, ça passe par nous. Alors, quand j'ai dit « être témoin de la puissance de Dieu nous rend acteur », quand vous avez entendu le terme « témoin », je pense qu'il y en a beaucoup qui sont restés assis en se disant « ça va bien, ce matin, je ne vais pas être trop dérangé hein, ». Parce que j'ai juste à regarder. Être témoin, c'est quand même pas compliqué. Hein, on est là et on regarde ce qui se passe. Désolé de vous dire que ce n'est pas exact. Il nous a choisis et il désire agir en nous et au travers de nous. On peut être témoin de son action tout en étant celui ou celle par qui va transiter la parole de bénédiction, la parole d'autorité, la parole de connaissance, le miracle de guérison. On peut même être étonné de voir ce qui se passe. Mais il le fait au travers de nous. C'est lui, mais au travers de nous. Donc on est témoin de son œuvre et il nous utilise, nous. Il t'a choisi pour être témoin de la puissance de Dieu tout en étant acteur. Il désire que tu vives la puissance de Dieu. Et quelques versets nous y invitent. Versets que nous avons relevés aussi dans cette série. Luc 20, 21, 23. Jésus leur dit, « De nouveau, la paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Vous aviez lu jusqu'à la fin, hein, ce texte? Ça fait un peu écho à ce qu'on vient d'entendre, non, dans ce miracle. Vous voyez, ils ont appris quelque chose, ils ont vu Jésus. puis Jésus après les envoie. Jean 14, 12, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. On a insisté pas mal là-dessus, hein, dans la dernière série de la prière, hein, de dire on demande les choses dans le nom de Jésus, tellement important, hein, selon sa volonté. Puis acte 1:8, que vous connaissez par cœur, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc les gars, ils n'ont pas rien fait, ils n'ont pas juste regardé. Être témoin, c'est aussi être acteur. Et c'est ce qui va se passer avec la suite, les apôtres. Si je prends rapidement le premier miracle dans les livres des Actes, on voit l'attitude de Pierre et de Jean qui a changé. Ils ont compris quelque chose, ils ont été instruits en suivant le maître. Et là, c'est eux maintenant qui sont là. Et ce miracle, on connaît aussi probablement le miracle de ce boiteux de naissance. Il mendie devant la porte du temple qu'on appelle la belle porte. Et puis, il est là, on le dépose le matin, on le reprend le soir, il fait l'aumône et ils arrivent et ils sont attentifs à lui. Et puis, Pierre va lui dire, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis, il le prit par la main, le fit lever, ses pieds et ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, et adressant des louanges à Dieu. Alors, peut-être qu'ils avaient passé plein de fois devant cet homme avant, même sans le voir. Mais là, ils ne font pas semblant de ne pas le voir. Vous avez déjà fait semblant de ne pas voir le mendiant à l'entrée de la Migros ? Allez, soyez vrais. Bon, là, ils ne font pas semblant de ne pas le voir. Hein. Ils s'arrêtent vraiment, puis ils n'ont pas peur de s'approcher. Ils n'ont pas peur de se salir les mains. Vous savez, toute la réputation, c'était leur, hein, on avait cette culture de dire c'est leur faute s'ils sont comme ça. C'est ce qu'ils méritent, c'est héréditaire, hein, c'est le péché des pères. Donc, il ne fallait pas s'approcher. Ils s'arrêtent, ils s'approchent, ils le regardent, ils prononcent une parole d'autorité, ils le touchent et ils le relèvent. Ils avaient compris que ça ne venait pas d'eux. Ça vient bien de Christ, mais Christ en eux, Christ en lui et nous. Alors si vous avez saisi que vous êtes appelé pour être disciple, que vous êtes choisi par Jésus malgré tout ce qui pourrait vous disqualifier, nous disqualifier humainement parlant, ou même spirituellement, j'aimerais vraiment vous inviter ce matin. Il vous a choisi et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Puis ce n'est pas pour rien faire non plus. Il vous a choisi pour un but. Il désire faire de vous des témoins, des acteurs de sa puissance dans votre quotidien. Alors ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre une décision. On va prendre juste un petit moment, tout simple. Mais qu'il y ait une décision dans votre cœur. Oui, j'ai choisi, oui, j'ai compris. J'ai entendu ce « suis-moi », j'ai choisi de le suivre. Mais ce matin, aimerais-tu être témoin de sa puissance. C'est comme le cri sur mon cœur, c'est « Est-ce que tu aimerais encore te laisser ou te laisser utiliser tout à nouveau ?» Peut-être ça a été le cas dans le passé. Puis tu es justement rentré un peu dans cette routine. Puis suivre Jésus, c'est devenu plus qu'une idée, plus qu'un concept. Mais Jésus ne s'est pas arrêté de marcher. Jésus, il n'a pas arrêté de faire des miracles. Jésus est à l'œuvre. La mission de Dieu, elle est à l'œuvre partout au travers le monde. Mais est-ce que tu désires te laisser utiliser à nouveau par Jésus ? Est-ce que tu désires être le témoin de sa puissance ? Que au travers de toi, tu puisses voir l'œuvre de Christ. Je vous laisse quelques instants pour prendre cette décision. J'aimerais encore vous dire qu'en prenant cette décision, moi je crois que le Saint-Esprit va vous remplir tout à nouveau. Je crois qu'il va vous permettre de grandir dans cette dimension d'une vie surnaturelle, Mais je me dois de vous dire que cela demande de l'obéissance. Que cela demande de l'obéissance. Suivre Jésus, c'est suivre Jésus. Il n'y a pas d'autre option. Et je prie ce matin que comme Simon-Pierre, vous ayez soif, vous ayez envie de plus. Avec ce cœur prêt à obéir. Est-ce que quelqu'un ce matin le désire? Personne ne regarde, on a les yeux fermés. Juste lever la main pour dire oui, je prends la décision ce matin. Ce n'est pas une décision à la légère. Mais oui, je veux recoller à Jésus. Je ne veux pas lui lâcher les sandales. Je veux vraiment être à l'arrière. Je veux vraiment être témoin de ce qu'il fait. Je veux me laisser utiliser tout à nouveau. Peut-être j'avais arrêté, mais je veux recommencer à être attentif à ses appels dans ma journée. Je veux accepter de me laisser détourner dans mes plans pour faire sa volonté, pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Alléluia. Je priais pour ces mains qui se sont levées. Père, merci. Merci pour ces personnes qui ont pris la décision ce matin. Tu vois leur cœur, tu vois leur désir, mais tu vois aussi leur foi. Parce qu'il y a aussi cette réalité où on choisit, puis on ne sait pas exactement comment ça va être. Seigneur, je prie que tu viennes maintenant par ton Esprit Saint les remplir tout à nouveau. Seigneur, que tu ouvres ce chemin. Seigneur, que tu leur donnes la disponibilité de cœur pour voir la personne dans le besoin, dans leur semaine. Seigneur, qu'ils puissent t'entendre. Puis non seulement t'entendre, mais qu'ils puissent obéir à ce que tu leur demandes. Tu leur donnes cette force d'obéir. Ne pas se laisser détourner par autre chose, mais d'obéir à ce que tu leur demandes. Seigneur, on désire que nous aussi, ici même, on veut le décider aussi en tant qu'Église, nous soyons un lieu dans lequel nous sommes témoins de la puissance de Dieu. Pas parce qu'on est meilleur que les autres, pas parce que c'est mieux qu'ailleurs, simplement parce qu'on a cette humilité de dire oui, on veut obéir, oui, on veut se laisser utiliser. Oui, on veut être témoin de toi, de ton œuvre. Ô Jésus, tu vois notre assemblée, tu vois nos cœurs qui crient à toi ce matin. Seigneur, tu vois encore peut-être nos besoins d'être instruits par toi. Tu vois peut-être on n'est pas tous au même endroit. Peut-être certains ont encore besoin de dire, mais je dois voir. J'ai besoin de voir encore ce que Jésus fait. Seigneur, merci parce que tu prends chacun là où il est ce matin. Tu nous amènes plus loin. Tu nous amènes à ta suite. Et on veut se réjouir, comme Pierre a dit, mais nous aussi, on veut se réjouir de la suite. On veut se réjouir des autres miracles qu'on va goûter, qu'on va voir avec toi. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Merci pour votre écoute. Et puis, que ça n'en reste pas là. Que vraiment, dans cette semaine, vous puissiez voir au travers de vous des choses extraordinaires se produire. Parce que Dieu est bon. Amen.